La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'était un joli garçon aux cheveux blonds, un romantique qui aurait voulu, adolescent, épouser les maîtresses de son père et, jeune homme, faire un mariage d'amour. Sade fut également, on le sait, un libertin qui voulait jouir de la vie, la dévorer, vivre entre le théâtre et le plaisir, et c'est ce qu'il est parvenu à faire jusqu'à ce qu'on l'enferme à l'âge de 37 ans. Et pour 27 années au total, 27 années entrecoupées par une période de liberté au moment de la Révolution. C'est d'abord par lettre de cachet sur ordre de sa belle-mère qu'il fut jeté en prison, puis c'est Napoléon qui l'enverra à l'asile de Charenton, où il est mort après une vie de souffrance, mais pas toujours de tristesse, à l'âge de 74 ans. Cette vie, Stéphanie Genand nous l'a racontée hier au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Demain, nous évoquerons la question du rapport de Sade avec les femmes en général et sa femme en particulier, d'abord avec Florence Lautry, puis avec Cécile Gilbert. Enfin, jeudi, nous nous demanderons pourquoi le XXe siècle a pris Sade au sérieux. Autrement dit, nous évoquerons la lecture qu'on fait de ses textes, les intellectuels de l'après-guerre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler de ça dans son siècle, de quelques-unes de ses œuvres et aussi de sa conception de l'amour, nous sommes avec Michel Delon, spécialiste du siècle des Lumières et de la littérature libertine, auteur notamment du Savoir-vivre libertin aux éditions Plurielles en 2015. Il a également édité les œuvres de Sade en Pléiade avec la collaboration de Jean Deprin. Et puis on lui doit également l'article Sade, un athée en amour dans le volume collectif paru sous ce même titre en 2014 aux éditions Albin Michel. Bienvenue à tous dans cette compagnie des auteurs qui commence avec une analyse du désir sadien par l'écrivaine Annie Lebrun.
Il est le premier à voir aussi que autant est-il, il n'y a pas plus matérialiste que Sade, pas plus athée que Sade, mais il voit le principe excessif du désir. Pour lui, le désir est un principe d'excès. Et ce principe d'excès qu'il voit, qu'il rencontre dans la nature et qu'il voit aussi dans les phénomènes naturels, il se rend compte qu'il y a quelque chose en l'homme qui fait qu'il va falloir doubler la nature. Tout se passe comme s'il y avait une surenchère de la tête et du corps. Et il voit que le désir, dans son principe excessif, est indissolublement lié à l'imagination. Et c'est ça aussi le coup de génie de Sade. Et c'est une clé, c'est quelque chose de fondamental dans la dynamique du désir. Le désir renaît de son assouvissement, mais il ne renaît que aussi parce que l'imagination prend le relais. Parce que, comme je l'ai dit, le désir est la manifestation physique de l'infini en nous. Et c'est ça aussi que dit Sade. Or, il faut trouver l'infini. Donc ça, c'est une des très grandes aventures de la pensée, parce que c'est, est-ce que ma tête tient devant la violence qui m'habite? Est-ce que mon désir est à la hauteur de, par exemple, un volcan?
C'est quand ça laisse à désirer.
Bonjour Michel Delon.
Bonjour.
On vient d'entendre Annie Lebrun interrogée par Zoé Varier. Annie Lebrun, pour qui l'œuvre de Sade représentait une grande aventure de la pensée du désir, de la pensée du désir lié à l'imaginaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, de tout cela?
Je crois, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut tout de suite distinguer l'homme Sade et puis ce dont parle Annie Lebrun, c'est-à-dire un écrivain, un poète du désir, un romancier de l'excès, et je suis assez d'accord avec elle. Elle n'aimerait pas que je dise assez.
Vous êtes complètement d'accord avec elle. Allez.
Pour ce qui concerne l'imagination. Dans ses textes, il explique que c'est un libertin qui dit ça à Juliette dans l'histoire de Juliette. Il lui dit « Vos fesses, là, sont belles sans doute ». mais celles que j'imagine, celles-là seules, sont sublimes. Hein, donc là, on voit tout de suite, on est dans un milieu où, semble-t-il, on peut tout faire, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on imagine. Mmh. Donc là, on est dans une construction à la fois poétique et intellectuelle, mais il faut commencer par distinguer l'homme Sade qui, dans sa vie, a été un aristocrate méprisant pour les prostituées dont il estimait que du moment qu'il les payait, elles avaient à subir les esters.
Alors vous dites le contraire un petit peu de ce que disait Stéphanie Genant hier, qui du coup considérait qu'au fond, il y avait du respect à partir du moment où le jeu entre le marquis de Sade et les prostituées qu'il payait était très clair. Vous semblez dire autre chose.
Non, je parle... On est dans un univers d'Ancien Régime où la hiérarchie sociale... C'est même pas le mot hiérarchie, où les mondes sont tellement différents entre un noble lié par sa mère à la famille royale, hein, au condé, et d'autre part des pauvres filles qui n'ont absolument rien pour se défendre. Donc je pense qu'il n'y a pas de contrat possible entre eux.
Donc vous faites une lecture d'un Sade dominateur, d'un Sade profitant de son statut social notamment.
Dans sa vie, oui. Hein? Mais très vite, il va être rattrapé, non pas par la justice du temps, parce qu'il a tel parent, le comte de Charolais, qui a fait bien pire que lui. Hein, et qui a toujours été pardonné par le roi. Lui, il est rattrapé par des contradictions de la société à l'époque, par les efforts de réforme de la justice, des parlements. Donc, je vais pas dire qu'il est victime, mais enfin, il est pris dans cet engrenage et il est réduit à l'impuissance, ce qui est la pire situation pour quelqu'un qui s'estimait par sa naissance, ayant tous les droits.
Mmh. Et à qui on apprenait aussi, à cette époque-là, qu'ils avaient tous les droits,
oui,
les aristocrates.
Absolument. Mmh. Un autre biographe de Sade, Larry Bongi, a exhumé une lettre extraordinaire de la mère de Sade au lieutenant de police, Berrier. Elle lui dit « Vous avez arrêté mon cuisinier ». J'en ai absolument besoin, il faut le libérer. Je compte sur vous, Éléonore de Maillet, de Sade. Et semble-t-il, le lieutenant de police relâche le type qui avait violé un petit garçon. On est dans cet univers.
Alors, est-ce que vous diriez, Michel Delon, que Sade, c'est un intellectuel, comme le sous-entend aussi Annie Lebrun quand elle parle de la grande aventure de la pensée chez Sade? Est-ce que c'est d'abord un homme de lettres? Est-ce que c'est d'abord un libertin? Est-ce que c'est d'abord un intellectuel? Est-ce que c'est un philosophe?
Alors, dans les années, en 1760, c'est un fils de famille... qui a des goûts pour la littérature, son père déjà écrit. C'est une famille où une certaine pratique, on va pas dire de la littérature, mais des belles lettres, fait partie du standing social.
C'est donc un peu plus que ça quand même, c'est le marquis de Sade.
Oui, mais justement, là je dis au début de son existence de jeune noble. Et à partir du moment où il est poursuivi, où il s'enfuit en Italie. Hein, il fait ce voyage en Italie où, pendant un an, il va être un voyageur attentif, prenant des notes sur ce qu'il lit pour préparer ses voyages et espérant écrire un grand voyage d'Italie. Donc là, déjà, il devient quelqu'un de différent parce que il va comparer ses désirs avec en France et ce qui se passe en Italie. Il va découvrir les mœurs des anciens Romains. Il va, comme ça, être dans une situation de, oui, de comparaison, donc de réflexion critique. Mmh. Et puis alors, ensuite, à partir du moment où il est en prison, ses possibilités, quand même, où il devient fou, où il se transforme. Et là, il devient vraiment un écrivain, un philosophe, et je crois un grand écrivain.
Donc quelqu'un qui apporte une pierre à la réflexion philosophique, oui, et encore jusqu'à aujourd'hui.
Oui, de manière non conceptuelle. Hein, mmh. C'est pas un philosophe qui va, je crois, faire avancer la pensée en articulant un système cohérent, puisqu'il ne va écrire que des romans. Et dans ces romans, ces personnages tiennent des discours qui ne sont pas tous équivalents les uns aux autres. Ils ne sont pas réductibles à un système.
Alors, la vie du Marquis de Sade est contemporaine de celle des encyclopédistes, mmh. et c'est évidemment très important dans la perspective qui est la vôtre, puisque vous êtes historien des idées, spécialiste du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui permet l'émergence de Sade, au fond, au XVIIIe siècle ?
Alors, ce qu'il a de commun avec les philosophes des Lumières, c'est de relativiser la morale dominante, religieuse, de son temps. C'est l'époque des grands voyages autour du monde, des circumnavigations. Diderot va s'enchanter du fait que, il en rajoute un peu, mais il imagine qu'à Tahiti, la nouvelle Cythère, la sexualité serait totalement libre. Mmh. Donc il est évident que Sade lit tout cela et fait sienne cette réflexion.
C'est un homme moderne, c'est un homme de son temps.
Oui, 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 il n'y a aucun doute. Il est aux aguets de ce qui s'écrit. Il emprunte aussi à la frange la plus radicale des Lumières l'athéisme et le matérialisme. On peut arriver à expliquer l'apparition de la vie et le fonctionnement de l'univers sans faire intervenir ni un créateur, ni une finalité, ni un ordre dominant et obligeant à une vie correspondant à cet ordre.
Et alors, qu'est-ce que ça donne du point de vue de l'amour? Vous avez dirigé un ouvrage qui s'appelle, qui est sous-titré « Être athée en amour ». Sade, ouais. Un athée en amour, c'est ce qu'il était. Qu'est-ce que ça veut dire, ouais. Et qu'est-ce que ça raconte de la manière dont Sade voyait la relation amoureuse, de sa conception de la relation amoureuse?
Ouais. Alors, les philosophes des Lumières partent d'une morale utilitariste, c'est-à-dire chacun vit pour satisfaire ses désirs, mais l'intérêt bien compris veut que l'on établisse de bonnes relations, en particulier des relations amoureuses avec autrui. Alors, Sade, l'expression athée en amour, c'est une expression qu'on utilise à l'époque.
C'est pas son expression à lui, d'ailleurs.
Non, c'est pas une expression à lui. Loin. Il a de très belles formules. Il invente le mot isolisme. Il utilise le terme principe de délicatesse qui justifie à peu près toutes les perversions. Hein. Mais athée en amour est employé de manière négative pour critiquer ce qui serait un égoïsme total, empêchant toute relation au-delà du désir et de sa satisfaction immédiate. Mmh. Alors, dans les romans de Sade, nous avons des personnages qui défendent ce point de vue, et donc qui justifient leur violence, mais qui, eux, pourtant, reconnaissent qu'il y a, entre grands libertins, il y a une reconnaissance. Donc, par exemple, Juliette, hein, qui est la sœur parfaitement libertine et criminelle, Juliette va raconter que son histoire aboutit à un trio. Elle vit avec un homme, un amant et une maîtresse. Et la relation entre eux est de l'ordre de l'amour. Donc, il ne nie pas la possibilité qu'il y ait cet amour, mais il est réservé à des êtres forts, sinon, bien, c'est de l'illusion.
Mais alors, cet athéisme en amour, est-ce que c'est tout simplement une vision qui consiste à ne pas confondre le désir, qui doit être satisfait, oui, physiologique, quoi, et puis l'amitié qui fonde les couples. Est-ce que c'est aussi simple que ça, la vision de Saad,
Michel Delon ? Non, puisqu'on a commencé sur cette particularité de l'être humain, qui fait qu'il est créé par la nature et qu'en même temps, il est en concurrence permanente avec la nature et que son moteur est une imagination qui le force à aller tout le temps au-delà. Donc, cette amitié, elle ne peut pas ignorer le désir et elle est toujours, chaque matin, sujette à caution et à renversement.
Content et glorieux de mon épicurisme, je prétends expirer au sein de l'athéisme et que l'infâme dieu dont on veut m'alarmer ne soit conçu par moi que pour le blasphémer. Oui, vaine illusion, mon âme te déteste. Et pour t'en mieux convaincre, ici je le proteste. Je voudrais qu'un moment tu pusses exister pour jouir du plaisir de te mieux insulter. Quel est-il en effet ce fantôme exécrable, ce Jean-Foutre de Dieu, cet être épouvantable, que rien n'offre au regard ni ne montre à l'esprit, que l'insensé redoute et dont le sage rit, que rien ne peint au sens, que nul ne peut comprendre, dont le culte sauvage en tout temps fit répandre plus de sang que la guerre ou Thémis en courroux, ne purent en mille ans en verser parmi nous.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on vient de l'entendre dans cet extrait de La Vérité lu par Valérie Lang. Saad était d'un athéisme total et en amour aussi. Et pourtant, il y a dans son panthéon, dans ses admirations, Pétrarque, qui lui était davantage chrétien en amour, si l'on peut dire. Il y a même une histoire qui est assez belle, qui est l'histoire de cet amour de Pétrarque pour Laure de Neuve, qui était visiblement, alors est-ce une légende, est-ce vrai, apparenté à la famille de Saad. C'est l'oncle de Saad, l'abbé, qui lui n'était pas tellement, qui était un peu libertin
totalement.
Aussi, hein, totalement, qui s'était beaucoup intéressé à cette question. Alors, pour l'historien des idées que vous êtes, c'est intéressant parce que ça permet aussi de mieux comprendre Saad, de voir en quoi il y a chez lui un syncrétisme, un mélange entre un certain pétrarchisme et puis un amour complètement athée, un amour complètement libertin, Michel Delon.
Une toute petite parenthèse, on a entendu ce texte qui est un poème en alexandrin, rimé. C'est assez étonnant la façon dont Saad arrive à introduire l'argumentaire le plus scandaleux à cette époque dans la forme totalement normée de l'alexandrin.
Ça, c'est symptomatique de l'écriture de Saad, d'ailleurs.
Oui,
de
voilà.
Toujours chercher une forme existante, voire une forme classique, ouais, pour dire les choses les moins classiques.
Ouais. Alors, pour en revenir à Pétrarque et à Laure, la famille de Saad se vante, en effet, d'avoir dans son arbre généalogique Laure de Neuve, qui serait devenue Laure de Saad. Bon, ça se passe quand même au XIIIe siècle, ça semble tout à fait plausible. Et l'abbé, le frère du père de Donatien, a consacré une grande partie de sa vie à écrire des mémoires sur la vie et l'œuvre de Pétrarque, qui sont trois beaux in quarto, où on a toute l'histoire des amours de Pétrarque et où il introduit, ça c'est assez intéressant d'ailleurs pour l'histoire même de la biographie, il introduit les sonnets de Pétrarque à l'intérieur comme des étapes du cheminement biographique du poète. Et Sade a gardé toute sa vie son exemplaire du livre de son oncle, et qu'il a annoté même, et c'est-à-dire qu'il l'a eu en prison à Vincennes, à la Bastille, et même à la fin, à Charenton. C'est un texte qu'il a toute sa vie gardé.
Et en quoi c'est important finalement? En quoi ça nous permet de mieux comprendre du coup le rapport de Sade à l'amour?
Quand il est en prison, il raconte même à sa femme qu'il rêve que l'or lui apparaît et veut l'aider contre tous les méchants qui le persécutent.
Donc là encore, c'est un Sade romantique, un Sade amoureux qui aime cette histoire avec l'or de Neuve.
Nous voulons absolument que Sade soit totalement cohérent, monolithique. Il passe son temps, déjà dès son enfance, il a été élevé pendant une partie de son enfance en Provence par son oncle, qui est un abbé, qui a eu des fonctions importantes dans le clergé, et dont il voit très bien qu'il vit, il y a toujours une ou deux courtisanes dans le château de l'abbé. Donc il a suivi son oncle, il l'a entendu tenir des discours, et il l'a vu vivre différemment. Donc, la notion d'unité de la personne, je crois, lui est totalement étrangère. Mmh. Moi, je me souviens déjà, quand j'étais adolescent, j'étais choqué lorsqu'on me disait « il faut que dans telle circonstance, on se tutoie et dans telle circonstance, on se vouvoie ». Ou, ici même, il y avait des animateurs de radio qui me disaient « on se tutoie dans la vie, mais à la radio, on se vouvoie ».
Nous, on ne se tutoie pas dans la vie, je le dis à nos auditeurs.
Et j'avoue que ça m'étonnait toujours. Donc, a fortiori, il y a 2 siècles et demi, Sade est quelqu'un qui n'a pas besoin de ce type de cohérence. Mm-hmm. Quand il s'adresse à sa femme, il va lui écrire des belles lettres d'amour, vous en parlerez demain, et par ailleurs, très souvent, il lui écrit des torchons d'une violence et où il est exigeant comme si c'était la dernière des servantes. Eh bien, il est comme ça.
Alors, ce que ça dit aussi quand même, cette histoire de Pétrarque jusqu'au libertinage, disons, du marquis de Sade, c'est aussi l'évolution de la désacralisation du sentiment amoureux au fil des siècles. On peut y voir, et ça fait aussi toute la modernité de Sade, on peut y voir un changement de rapport quand même des hommes et des femmes du 18e par rapport à l'amour. L'amour courtois, c'est terminé aussi. Donc ça, c'est important quand même comme contexte.
Oui, mais on peut dire aussi que les êtres sont libres parce que leurs relations les regardent l'un et l'autre, ou les uns et les autres, et non pas une loi qui leur serait précédente et supérieure.
Mais l'homme dont vous parlez est un monstre. L'homme dont je parle est celui de la nature. C'est une bête féroce. Eh bien, le tigre, le léopard dont cet homme est, si tu veux l'image, n'est-il pas comme lui, créé par la nature et créé pour remplir les intentions de la nature? Le loup qui dévore l'agneau accomplit les vues de cette mère commune, comme le malfaiteur qui détruit l'objet de sa vengeance ou de sa lubricité. Oh, vous aurez beau dire, mon père, je n'admettrai jamais cette lubricité destructive. Parce que tu crains d'en devenir l'objet, voilà l'égoïsme. Changeons de rôle et tu la concevras. Interroge l'agneau, il n'entendra pas non plus que le loup puisse le dévorer. Demande au loup à quoi sert l'agneau. à me nourrir, répondra-t-il. Des loups qui mangent des agneaux dévorés par les loups, le fort qui sacrifie le faible la victime du fort. Voilà la nature, voilà ses vues, voilà ses plans. Une action et une réaction perpétuelle, une foule de vices et de vertus, un parfait équilibre en un mot, résultant de l'égalité du bien et du mal.
La compagnie des auteurs sur France Culture. On a perdu un petit peu le texte dans l'atmosphère. Quelle analyse vous en faites? C'était un extrait, vous l'avez reconnu évidemment, de Justine ou les malheurs de la vertu, lu par Valérie Lang, dans lequel on entend quand même que Sade, ou le narrateur de Sade, parce qu'il ne faut pas tout confondre non plus, semble faire la promotion de la loi du plus fort. Est-ce qu'il y a une éthique de Sade qu'on peut tirer finalement en extrapolant cet extrait?
Oui, ça correspond, ce qu'on a entendu là, hein, ça correspond à un matérialisme au front bas, enfin, pris au pied de la lettre. Il ne peut y avoir qu'un égoïsme généralisé, et donc chacun abuse de sa position. Mais en même temps, vous avez entendu dans ce texte, le libertin demande à Justine « changeons de rôle ». Donc là, on a une distance par rapport à cette loi de l'égoïsme général et la possibilité offerte à chacun de s'affirmer. Et à partir du moment où deux personnes qui se battent pour dépasser la simple loi de la nature se reconnaissent, alors... Un sentiment peut s'inscrire dans la durée.
Est-ce qu'on peut parler de libéralisme au sujet de Sade?
Alors, Non, écoutez, déjà ce mot-là, vous vous rendez bien compte, même s'il apparaît au XVIIIe siècle, je ne sais pas très bien le sens qu'il faudrait lui donner en économie, dans la vie sociale.
Peut-être pas en économie, mais disons en effet, dans la vie sociale, c'est l'idée que chacun... irresponsable de lui-même et que dans la mesure où ne porte pas préjudice à son voisin, on doit pouvoir faire ce qu'on souhaite faire.
Voilà.
C'est l'idée que les choses se régulent aussi par elles-mêmes.
D'accord. C'est pas la main invisible du marché, mais...
Il n'y a pas de marché, là. Enfin,
si,
pas
le marché
vraiment.
Des désirs.
Le marché des désirs, peut-être.
Oui, non, c'est sûr, ça, c'est la version positive possible qu'on va trouver, par exemple, dans la philosophie dans le boudoir, hein, où on a d'un côté cette version que j'appelle positive de la liberté revendiquée en amour par Sade, et d'autre part, on a aussi la violence à partir du moment où l'autre refuse de concevoir qu'il est libre. Donc à ce moment-là, on va s'acharner contre lui... et il se met lui-même dans la position de victime.
On va continuer à parler avec vous de l'œuvre de Sade, de la question de l'amour aussi chez Sade qu'on a commencé à aborder juste après la chronique et les conseils de lecture de Georges Marcabib.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Georges Marcabib de la librairie de l'Atelier rue du Jourdain dans le 20e arrondissement de Paris. Bonjour Georges Marc.
Bonjour Mathieu.
Et vous êtes en pleine rentrée littéraire.
La deuxième de l'année. Vous savez comment se profile l'année littéraire en France. Il y a septembre avec le grand raout pour la course aux prix littéraires et janvier qui maintenant est la deuxième rentrée dite rentrée d'hiver, avec un phénomène quand même cette année, c'est l'arrivée de Houellebecq sur nos tables. Donc je vais vous parler évidemment
d'autres
de livres,
choses.
Mais d'autres choses, parce que je crois qu'on en a assez entendu parler.
On en parlera ici aussi dans quelques jours, mais bah, vous en saurez davantage.
Voilà. Donc moi je vais vous parler d'un auteur et du dernier livre de cet auteur que j'ai découvert cette année, édité au Seuil. Il s'agit de Sarah Chiche qui vient de publier Les Enténébrés, avec un texte d'une force et d'une passion. Justement, on parle de Sade. Je pense que là vraiment Sarah Chiche fait un honneur à Sade dans ce bouquin. Alors Sarah Chiche nous met en scène une jeune femme, enfin une femme psychologue qui décide de partir en Autriche, aller accompagner des migrants qui viennent de débarquer en masse. On est en 2015, et là, lors d'une visite d'un musée autrichien, elle va tomber sur Richard K, musicien de son état, et avec lequel elle voue enfin une passion musicale forte comme elle et son mari. Et là, va se dérouler entre eux une passion et une vie amoureuse incroyable.
À la Pétrarque alors.
À la Pétrarque, exactement. Et là, cette femme, Sarah, va se laisser complètement envahir par cet amour, mais elle est amoureuse de son mari, et lui-même est amoureux de sa femme, et tous deux n'ont pas envie de créer du malheur autour d'eux, donc ils vont vivre cette double vie. Voilà. Mmh. Et c'est l'occasion pour Sarah Chiche de nous parler de cette histoire d'amour, mais découvrir quelqu'un, c'est aussi s'exposer et donc se raconter, et elle va donc nous raconter aussi la vie de la famille de son personnage, c'est-à-dire sa mère, sa grand-mère, et on va remonter comme ça le temps pour découvrir toute la vie de cette famille. C'est assez passionnant, c'est d'une énergie incroyable, c'est d'une passion incroyable, et on sort de là vraiment complètement, non pas enténébré, mais émerveillé par la qualité de ce livre.
Qu'est-ce qui vous a aussi tapé dans l'œil sur vos tables, Georges Marc ?
On parlait de Richard K, violoncelliste, et là, j'ai découvert un premier titre édité chez Rivage d'une jeune femme qui s'appelle Aja Gabel, ça s'appelle Les Amis, et là, ça nous met en scène un quatuor de musique de chambre, de sa fondation, sa création, jusqu'à leur consécration. Donc on va traverser comme ça 15 ans de la vie de ce quatuor. Quatre jeunes gens se mettent ensemble, décident de mettre leur énergie autour de cette musique, on va dire très difficile, hein, puisque il s'agit non pas d'être virtuose, mais d'être en complicité avec l'autre. Et là, pour le coup, je pense que ça peut être aussi un moment très sadien. Je veux dire, jouer la musique de chambre à quatre en étant dans cette complicité très forte autour de la musique, ça peut être magnifique. Voilà, c'est ce que nous raconte ce livre, avec évidemment les difficultés des uns et des autres. Et ce qui est génial dans ces livres autour de la musique, que, en tout cas que moi j'aime, c'est que moi qui ne suis pas un spécialiste, on arrive à être embarqué directement, et non seulement on va dire dans la musicalité du livre, mais dans la musicalité de la musique dont on nous parle. Et voilà. Ça, c'est assez formidable.
Une traduction, je le signale au passage, de Cyrielle Ayakatsikas. Une dernière Bravo. Sélection qui est un premier roman cette fois, Georges Marc.
Alors, deuxième premier roman, puisque le Aja Gabel était aussi un premier roman, mais américain. Là, il s'agit d'un premier roman français édité chez Viviane Ami. Moi, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, parce qu'elle est toujours en train d'essayer de défraîchir, justement, et de découvrir des nouvelles plumes. Là, il s'agit d'un premier texte de François Pierretti, s'appelle Les Saltimbanques, donc on reste dans cet univers quand même de la fantaisie, entre guillemets. Il s'agit de Nathan. Nathan a quitté sa ville tout jeune adulte, il a quitté ses parents et son père notamment, qui ne s'entendaient plus bien, et il quitte son jeune frère, tout juste adolescent, pour aller vivre sa vie à Paris. Il travaille dans une librairie d'occasion à Paris.
C'est votre histoire, Georges Marc.
Mais non, rien. Moi, j'ai pas laissé mes frères, et puis j'ai pas de librairie d'occasion. Mais bon, presque. Et malheureusement, son frère meurt, Gabriel meurt, il a tout juste 20 ans, il meurt dans un bête accident de voiture. Nathan décide de retourner, évidemment, va à l'enterrement de son frère, va passer du temps chez ses parents, et va essayer de comprendre un peu le parcours de ce frère qu'il avait complètement laissé, on va dire abandonné, entre guillemets, en tout cas, c'est le sentiment qu'avait eu son jeune frère. Et donc, on va comme ça retracer la vie de ce jeune Gabriel qui va vouer une partie de sa vie à sa passion, le jonglage, et il va donc rencontrer le groupe des saltimbanques avec lequel va traîner son frère pour essayer de vivre sa passion. Voilà. C'est aussi un parcours assez magnifique et assez joyeux, même si ça se finit mal, autour de qu'est-ce que c'est aussi que cette vie de saltimbanque.
Merci beaucoup Georges Marc, trois livres qui donnent envie. On vous donne rendez-vous bientôt à ce micro, puis ceux qui le souhaitent peuvent aller vous voir à la librairie de l'Atelier, rue du Jourdain, métro Jourdain, dans le 20e arrondissement, du lundi au dimanche matin.
Merci.
c'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Sade avec l'un des grands spécialistes de son œuvre, Michel Delon. Un autre grand sadien, c'était bien sûr Jean-Jacques Pauvert. On l'écoute ici en archive.
Jean-Jacques Pauvert pose d'ailleurs de façon volontairement naïve une question qui est la question que posent tous les gens qui ont voulu réprimer Sade. Oui. C'est Sade est-il sadique ? Alors, quelle est votre réponse à cette question ?
Ah, moi, je réponds tout à fait oui. Je veux dire que je m'inscris complètement en faux, par exemple, contre l'opinion d'un membre de sa famille qui, à 20 ans, n'est-ce pas, a dit, moi, la campagne que je mène, c'est pour séparer le nom de Sade du sadisme. Mais pas du tout. D'abord, s'il n'était pas sadique, qu'est-ce qu'il serait, finalement ? Où serait, justement, cette grandeur dont on parle toujours ? Il est complètement sadique. Je pense que Sade, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, était quelqu'un d'extrêmement dangereux socialement. Je n'affirme pas qu'il ait tué quelqu'un. Ce que j'affirme, c'est qu'il était très capable de le faire. Toujours dans ce mouvement, si vous laissez l'enfant à qui on donne un petit chat ou un petit oiseau, et il le prend dans sa main, il serre, tiens, ça crie.
Jean-Jacques Pauvert qui était interrogé par Raphaël Sorin. Alors, sadique, Sade, c'est évidemment la question qui vient à l'esprit tout de suite.
Pauvert a le mérite de mettre les points sur les i. Je crois que, bon, il prend position contre d'autres, contre l'idée des surréalistes, d'Annie Lebrun, qui disait que Sade, c'est l'amour fou. Je crois que la catégorie de sadisme, c'est une catégorie des médecins du 19e siècle, et c'est un mot qui a été inventé à partir sans doute du nom de famille de Sade, hein, mais qui correspond pas à ce que Sade a vécu et ce que Sade, surtout, a écrit. Hein ? Il est cruel, il est, encore une fois, irresponsable dans cette morgue de grand féodal dont on a parlé tout à l'heure.
Mais il le justifie en disant que c'est la nature aussi qui est comme ça. Voilà. Et la nature, elle est plus souvent tordue que droite. Il y a quelque chose autour de l'idée de torsion, que vous relevez d'ailleurs, qui est très présente dans les textes.
Hein ? Les philosophes des Lumières réfléchissent beaucoup à la notion de monstre. Hein, ils considèrent que est un monstre celui qui, statistiquement, n'est pas le modèle dominant. Hein, alors lui, Sade, il applique ça et il dit les moralistes ont parlé de beaucoup de choses, mais ils n'ont pas réfléchi à ce plaisir qu'on a... À s'affirmer contre autrui et même à tirer un plaisir de la souffrance d'autrui. Mais les médecins exactement contemporains s'interrogent aussi, y a-t-il une différence absolue entre le plaisir et la souffrance pour l'individu ? Hein ? Et c'est le moment d'ailleurs aussi où pour la première fois, on va essayer, la médecine va essayer de prendre en charge la souffrance et de l'atténuer.
Alors j'ai dit qu'on continuerait de parler de l'amour, mais c'est vrai que j'aimerais aussi que dans cette émission, on profite du fait que vous avez écrit l'introduction à la Pléiade Sade pour faire un petit peu un point quand même sur l'œuvre elle-même, et puis raconter, comme vous le dites dans cette introduction, qu'il a pratiqué un peu tous les genres. Je pense que c'est aussi important de le rappeler, et pas toujours, finalement, de ramener Sade, comme on vient de le faire, d'ailleurs, j'en prends une part de responsabilité, au sadisme. Alors, tous les genres, ça veut dire quoi, Michel ?
D'abord, en tant que jeune fille, fils de famille, il fait du théâtre. Hein, c'est-à-dire, tous les châteaux qu'il fréquente ont une scène où la famille joue. Alors, soit des pièces connues, soit des pièces qu'on écrit.
Oui. Et puis à Lacoste, il va
il aménage,
organiser un théâtre où il y a même deux scènes pour jouer des représentations de pièces différentes. Là, il y a quelque chose de très moderne. Il y a même, je crois, un endroit pour se restaurer. Enfin, on dirait presque une maison de la culture.
Là, Je crois qu'il ne comprendrait pas ce que c'est que la maison de la culture.
Forcément.
Hein. Mais il fait aménager, en effet, des espaces théâtraux. Il embauche, hein, il ne se souciait pas beaucoup de ses fins de mois, lui. Une troupe de théâtre et il invite toute la noblesse locale à ses représentations, d'où la nécessité de les restaurer. Et tout au long de sa vie, il va continuer à écrire du théâtre et à essayer d'en faire jouer. Hein, et c'est en particulier ce qu'il fait à Charenton, hein, avec un certain succès, et où il rencontre une idée nouvelle de la médecine aliéniste, la fonction curative éventuelle du théâtre.
Donc il y a le théâtre, mais il y a aussi les dialogues philosophiques.
Voilà, qui est le grand genre du XVIIIe siècle. Hein. Diderot, Voltaire écrivent des dialogues. Et lui, hein, il a le premier texte qu'on connaisse de lui, c'est l'entretien d'un prêtre et d'un moribond. Hein, où le prêtre vient dire au moribond, bon, maintenant, il faut absolument vous repentir. Et le moribond lui répond, mais si je me repens de quelque chose, c'est pas avoir encore fait assez de choses dans ma vie. Hein, j'ai vécu selon mon plaisir et je veux mourir de la même manière. Mmh. Et puis ensuite, la philosophie dans le boudoir. Hein, comme son nom l'indique, on avait philosophé partout, mais jusqu'à présent, on ne philosophait pas dans un boudoir. Et c'est toute la conception qu'il a d'une nouvelle pratique de la philosophie.
Mais alors c'est peut-être quand même dans les romans qu'il est le plus habile finalement à déployer son univers.
Il trouve une liberté totale et il va avoir le point de départ de sa grande fresque romanesque. C'est donc deux sœurs, Justine et Juliette, qui seraient l'exact opposé. Hein, Justine, totalement fidèle au normatage religieux et social. Donc elle passe sa vie à dire « je dois être vertueuse, conserver ma pudeur et ma virginité », alors qu'elle est sans cesse livrée à toutes les horreurs du monde, régulièrement volée, violée, violentée, etc. Mais elle ne veut pas entendre cette expérience. Elle est une espèce de martyre de la chasteté. Et à l'opposé, on a Juliette qui décide de vivre tous ses désirs et d'être vicieuse dans une société où le vice est dominant, qui donc va faire une grande carrière à travers l'Europe de courtisane. Oui. Et on a là comme ça un roman qui devient épique.
Mais alors, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est une suite de séquences pornographiques? Comment faire la différence, finalement, Michel Delon? Qu'est-ce qui fait roman avec l'histoire?
Qu'est-ce qui fait roman? Que la vie de Juliette est un voyage. Alors, en effet, elle est courtisane. Donc, à chaque fois qu'elle arrive dans un lieu, elle s'installe et elle décrit un peu ce que viennent faire ses clients. Mais en même temps, quand par exemple elle est en Italie, eh bien, les scènes vont se dérouler dans les ruines de la Grande Grèce, en Sicile, vont se dérouler sur les flancs du Vésuve. Donc là, on a un lien entre ce qui se passe et le décor, entre ce qui se fait et ce qui se dit, hein, puisque tous ces personnages théorisent leur pratique en faisant de la philosophie. Mmh. Si ce n'était que de la pornographie, hein, imaginez, vous allez dans un peep show et vous avez en face de vous quelqu'un qui vous lit du Kant, alors, qui est nu, mais qui se masturbe, mais qui lit du Kant. Mmh. Je crois que la plupart des clients
partiraient, vous croyez ?
Je pose la question.
Et non, on va lancer un sondage à nos auditeurs qui peuvent nous contacter sur Twitter pour répondre à cette épineuse question.
Avec Sade. Hein, on a ces décalages avec, par exemple, une scène totalement délirante d'une orgie qui se passe à Saint-Pierre de Rome.
D'ailleurs, dans un baldaquin très célèbre, voilà, avec des montants qui sont tordus.
Voilà,
on
des
revient
torses,
à l'idée
baroque,
de la torsion.
Et à l'esthétique qui est une esthétique baroque de la contre-réforme, hein, chez Sade. Donc, je crois que n'importe quelle personne qui voudrait lire un roman pornographique ne pourrait pas aller bien loin dans l'œuvre de Sade. Ça lui tomberait des mains.
Les défenses multipliées de celle-ci m'embarrassèrent beaucoup. La force ou la contrainte ne s'arrangeait pas à ma délicatesse. Cependant, je devais rendre un compte exact. Je me trouvais donc obligé de faire demander au roi ce qu'il prétendait que je fisse. Il m'envoya deux femmes de sa garde, munies de l'ordre de contenir la jeune fille et de l'empêcher de se soustraire aux opérations de mon devoir. Elle fut saisie et je poursuivis mes recherches. Elles devinrent très embarrassantes. Pas assez bonne anatomiste pour décider en dernier ressort sur une chose qui me parut douteuse, je me contentai d'établir sur celle-ci dans mon rapport que je lui supposais absolument tout ce qu'il fallait pour plaire à son maître, et que si les choses n'étaient pas tout à fait dans l'entier qu'il leur désirait, il s'en fallait de si peu que l'illusion lui serait encore permise. Quant à la quatrième, c'était une vieille femme, et je la réformai, ainsi que la première. Mais le roi ne s'empara pas au moins de toutes les quatre. Il était si enthousiasmé des femmes blanches qu'il n'en voulut soustraire aucune. Mon opération faite, les femmes entrèrent au sérail et je me retirai.
Ça, c'était un extrait du roman de Sade, Aline et Valcourt. C'était ce moment où le narrateur doit vérifier pour le compte d'un sultan la virginité de femmes qui entrent dans son sérail. C'est pas un de ses romans les plus connus, Aline et Valcourt. C'est peut-être un des romans que vous aimez quand même le plus, hein, Michel Delon.
Oui, c'est un roman qu'il a publié sous son nom, qu'il a revendiqué et qui voulait être un grand roman d'amour et d'aventure philosophique comme La Nouvelle Héloïse ou comme Cleveland de l'abbé Prévost ou comme Jacques le Fataliste de Diderot. C'est-à-dire un roman qui mêle un itinéraire géographique, hein, une découverte du monde et une découverte de soi. Et là, le personnage de... la femme, et puis, puisque dans cette situation étrange, hein, c'est un mari et une femme qui sont face à face, mais il ne reconnaît pas sa femme.
Oui, il la cherche partout, mais il ne la reconnaît pas.
Il ne voit pas qu'elle est là, et elle va sortir des pattes de l'horrible tyran noir au milieu d'une Afrique totalement noire. Mais vous avez remarqué le mot qu'utilise Saint-Ville, c'est l'illusion. Mm-hmm. Hein? C'est-à-dire que, de même que l'imagination est essentielle dans la vie amoureuse, de même l'illusion. Et donc, tout ce que nous avons dit sur la violence, elle peut être de l'ordre de l'imaginaire et de l'illusion, et elle n'est pas contradictoire avec des relations respectueuses entre les êtres.
Alors, il y a...
Je vous rassure, hein.
Ça y est, je suis rassuré. Bon. Il y a la question chez Sade de l'explicite. C'est un petit peu aussi ce que vous dites, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on laisse à l'imaginaire, qu'est-ce qu'on montre. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que Sade dit les choses? Parce qu'on a l'impression qu'il dit tout. Et en même temps, ce que vous nous expliquez, c'est que en réalité, il suggère davantage.
Oui. Dans les 120 journées de Sodome, qui est le texte le pire, hein, où il semble qu'on montre les pires choses qu'on puisse imaginer qu'un être fait à un autre, eh bien, même dans ce château des 120 journées, il y a des cabinets pour s'isoler et faire des choses dont on ne peut pas parler. Mmh. Et là, on est face à nos limites, même qu'est-ce qu'on peut imaginer le pire
du récit d'horreur, en fait.
Voilà.
De dire que c'est affreux sans montrer ce qu'on fait.
Voilà.
Et c'est l'imaginaire.
Et comme on est dans une langue classique, donc vous avez tout le jeu des métaphores, dans les textes que l'on dit tellement répétitif et pornographique. En même temps, vous allez avoir tout d'un coup un imparfait du subjonctif ou une métaphore qui fait que les organes ne seront plus nommés comme tels, mais qu'il y a ce travail d'équivalence auquel on est forcé de se livrer pour comprendre à peu près de quoi il s'agit.
Vous diriez que le travail sur la langue, le travail sur le style oui. est premier chez lui ?
Je ne sais pas s'il est premier. En tout cas, il est là et on peut avoir... Moi, je conserve un vrai plaisir de lecture écoutant même, les extraits que j'ai
quand même. Même les 120 journées, vous lisez avec plaisir ce livre ?
Bon, c'est un texte difficile. Oui. Là, c'est un texte limite. Mais dans les premières pages, oui, il y a des formules drôles. Mais il nous entraîne pour nous forcer à être face à nos propres, ce que nous acceptons, plus ou moins, parce que c'est 120 jours et chaque jour c'est un peu pire. Donc, les premiers jours, on se dit, bah oui, ça on accepte. Et puis on est confronté à l'horreur et c'est sûr que c'est le pire texte de Sade.
Alors, vous dites que la poétique du romancier chez Sade, elle se trouve perpétuellement entre la crainte de trop dire et celle de ne pas dire assez. C'est ce que vous venez finalement d'expliciter là. Mais Sade a toujours raconté les mêmes obsessions. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut signaler.
Oui, mais ça, on dit ça d'à peu près tous les écrivains. Un écrivain, il écrit plus ou moins toujours le même livre. Donc, chez Sade, on a des thèmes récurrents. La solitude de l'être humain, la difficulté de construire une relation à autrui. Mais en même temps, au théâtre ou dans le roman, dans un roman qu'il signe et qu'il reconnaît, qu'il avoue, qu'il proclame, et un roman qu'il publie anonymement, sous le manteau, qu'il présente comme posthume, La philosophie dans le boudoir, ouvrage posthume, par l'auteur de Justine. Donc c'est comme si il adoptait un point de vue différent, et là, les mêmes obsessions changent de lumière et d'apparence selon ces deux points de vue opposés.
Alors parmi ces obsessions, il y a le rapport entre l'extrême beauté et la salissure. C'est ce que vous appelez, je crois, une dissonance.
Tout à l'heure, vous parliez des contorsions, les contorsions des colonnes, mais qui sont aussi les contorsions de la jouissance ou de la...
Les corps tordus, les corps contorsionnés.
Oui. Des convulsions. Et il faut se souvenir qu'on est à l'époque exacte des convulsionnaires de Mesmer, qui seraient une façon de soigner les maladies psychologiques.
Mais donc il y a cette idée que la beauté appelle forcément la torture, par exemple.
Et que le désir, souvent on a des personnages, ils ont à choisir. Alors il y a une femme sublimement belle. Puis à côté, il y a une vieille qui ne se lave pas, et ils font bander pour la vieille qui ne se lave pas. Donc, ils constatent que le désir est tordu. À l'époque, le mot qu'on emploie, que Diderot emploie, il dit il y a de la bizarrerie en amour, il faut accepter.
Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui auraient envie de découvrir Sade, qui ne le connaîtrait que par réputation, par oui-dire, par quel texte faudrait-il commencer finalement ? Pour ne pas avoir peur et en même temps, pour ne pas passer non plus à côté complètement.
Je trouve La philosophie dans le boudoir est un texte qui a une espèce d'allégresse.
Oui, c'est un des textes les plus gais.
Au sens ancien et moderne du terme, ou militant du terme. C'est un texte où la pire violence est évoquée, puisqu'il y a un pamphlet politique au milieu, révolutionnaire, mais en même temps, à part on est un peu méchant avec une maman qui vient récupérer sa fille, mais en gros, on est entre adulte ou presque adulte, consentant.
Oui, enfin, il s'agit quand même d'une éducation d'une jeune fille, mais pas trop jeune. Bah, écoutez, merci beaucoup, Michel Delon. On va tout de suite se jeter sur La philosophie dans le boudoir.
La rue,
Et puis je renvoie nos auditeurs sur l'un de vos livres, hein, il y en a beaucoup, citons Sade, un athée en amour, dont on a parlé aujourd'hui, livre que vous avez dirigé pour les éditions Albin Michel, et puis on a parlé aussi de votre édition des œuvres de Sade dans la collection de la Pléiade. C'était La Compagnie des auteurs, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinault, Stéphanie Vélin et Ludovic Auger. Demain, on continue de parler du Divin Marquis dans son rapport, cette fois avec la gente féminine. Ce sera avec Florence Lautry, puis avec Cécile Guilbert. Mais tout de suite, sur France Culture, eh bien, c'est le retour de la poésie. Et c'est, comme chaque jour, grâce à Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Impasse de l'azur, c'est un livre de Patrick Laupin. Comment ça se dit d'ailleurs? Il faudrait le durcir, non? Si l'azur est une impasse, on dit impasse de l'azur. Mais en même temps, c'est presque un oxymore. Prenons la préface, on y verra plus clair. L'oreille du monde, de Lionel Bourg. C'est une enfance. Des nuits qu'un môme affronte la peur au ventre, n'étant jamais, il le sent, l'éprouve sans besoin d'explication aux plus ténues des phrases qui le hantent, qu'une espèce de cri, une espèce de voix, lesquelles tremblent et trahissent à ses lèvres l'irrévocable espérance d'une poignée de songes. Les mots se succèdent alors, grouillent, se bousculent, s'épousent ou se déchirent avant de s'apparier une fois encore, malgré le chagrin toujours qui subsiste au plus secret des yeux fardés de la pluie. On appelle cela la poésie. Oh, on prend donc par le début. Je me sens solidaire des pauvres gens, des petites mains. Ils souffrent, le soleil les quitte. Comment dire? Comment faire quand on est perdu? Quelle image sainte invoquer? Quand on est pauvre partout. Quand on est seul, c'est le seul qui guette. Si la mémoire est une voix audible du passé qui parle, comment la comprendre? J'ai rêvé de tant de bateaux du soleil, je suis parti à tort et à travers de mes chansons. J'ai visité le pays des morts sans larmes, j'eus mes voiliers, mon vent libre, mes feuillages, j'ai fait frisson du regret d'envie et mort pour toujours. Tous sont partis, il n'y a plus personne. Je te dis la vérité, petite patience qui bouge, on dirait du temps qui souffre qu'un vent souffle à la fenêtre. Deuxième texte. Un temps, je crus lire dans les têtes des bontés, puis j'ai vu que j'étais dans le faux. Les gens ne sont pas altruistes, ils se déguisent. J'ai mis du fou dans la tête, la brûlure torride des carreaux du soleil aux fenêtres, le ciel qui cogne pleine pente dans mes tempes, la pente amère de mon sang. Je reste. Je suis l'homme dont je crus mourir de ne pas être. Cette avidité, cette aversion réflexe presque à bout de nerfs, du bout des doigts et le poids de chaque mot dans chaque main, c'est comme ça que j'ai aimé la grâce profane d'écrire. Et puis, bruit de page, je vais un peu plus loin, je veux savoir ce qui se passe, l'action quoi, l'action. Soudain, sans crier gare, tu t'es fêlé, sans mot, sans bruit, miroir d'époque. Je ne voyais plus que le vide d'angoisse atone du malheur insensible. Si on pouvait garder bien au chaud dans les entrailles, mais on se trompe sur les abîmes, on dérape, on quitte, on est dans le droit fil de mourir. Passe un pont, fais-moi signe, qu'importe si je tombe, je voudrais qu'il pleuve et disparaître dans l'indifférence. Donc, obligé de m'interrompre là, on peut pas rentrer tout le poème dans notre format. J'ai aimé entendre « Je me sens solidaire des pauvres gens, des petites mains ». J'ai aimé lire « C'est comme ça que j'ai aimé la grâce profane d'écrire l'offre des démons, ce qui fait mal qu'on aime encore.
Jacques Bonnafé, merci pour ces poèmes de Patrick Laupin.